Nous voulons en effet écouter ce que nous dit le Seigneur, ce que nous dit en particulier le Seigneur Jésus. Cela fait quelques semaines déjà que nous avons suivi, essentiellement dans l'Évangile selon Marc, ce que signifie être un disciple de Jésus. Et nous poursuivons dans une perspective d'approfondissement. Marc, dans son Évangile, nous décrit Jésus toujours en mouvement. Ça n'arrête pas de bouger. On sait que Jésus enseigne, mais on ne sait pas ce qu'il enseigne. Et on voit Jésus constamment en mouvement vers les uns, vers les autres, appelant ses disciples à sa suite. Matthieu a choisi une autre façon de nous faire entrer dans tout ce que Jésus a voulu nous dire. Et Matthieu nous invite à écouter l'enseignement de Jésus. Il nous le restitue. Et c'est ce que nous allons lire ensemble. Nous allons aborder ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et je vous invite donc à lire dans Matthieu chapitre 5, les 12 premiers versets. Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis Jésus ouvrit la bouche, et il se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Jusqu'ici notre lecture. Vous êtes arrivé au milieu de votre vie affairée et stressée. Vous étiez arrivé de rêver d'avoir un temps où vous pouvez faire abstraction de tout et de tous pour vous concentrer enfin sur les essentiels, sur ce qui compte vraiment. Tant de ressourcement, tant de distanciation, tant d'approfondissement. Ceux qui aujourd'hui offrent ce genre de choses découvrent combien de tels moments répondent aux besoins de beaucoup. C'est ici le cadeau que Jésus fait à ses disciples. Les quelques mots qui introduisent ce que nous appelons le sermon sur la montagne font partie de ces descriptions qui font trop envie. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui, puis Jésus ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Jésus monte sur cette montagne pour s'isoler de la foule. Il veut créer un temps, un espace à part. Il s'assied, nous dit Matthieu, et cette position contraste avec le Jésus toujours en marche, le Jésus tout en mouvement que l'on voit ailleurs. Mais Jésus assis, c'est une invitation pour ses disciples de s'approcher de lui. Et c'est ce qu'ils font. Ils font cercle autour de lui. Combien sont-ils? Luc nous précise que Jésus vient de choisir les 12 qui seront ses apôtres et qu'ensemble, ils rencontrent une foule de ses disciples sur une hauteur. Il y a donc un nombre important d'hommes et de femmes rassemblés désireux de recevoir l'enseignement de Jésus, désireux d'apprendre de lui, désireux de vivre selon cet enseignement. Mais ces hommes et ces femmes, aussi nombreux soient-ils, sont unis dans le désir de suivre Jésus. Et Jésus est là, pour eux, assis, disponible, s'arrêtant, prenant le temps, un temps unique, un temps qui leur est consacré. Quel que soit leur nombre, ces disciples sont dans l'intimité de Jésus. Ils sont là pour lui, il est là pour eux. Et Jésus se met à parler, à enseigner. On donnerait cher pour être à leur place. Ça me fait trop envie quand j'essaye de restituer la scène. Et pourtant, si Matthieu et Luc reconstituent la scène, c'est pour nous dire que si nous voulons être des disciples de Jésus, tout ce qu'il dit là nous est adressé à nous aussi, avec la même proximité, le même lien, le même regard posé sur nous. Il est donc clair que Jésus s'adresse à ceux qui ont déjà fait le choix de le suivre. Et quel est le premier mot qui sort de sa bouche? Quel est le mot qui ordonne, qui rythme tous les autres? Heureux, dit Jésus à ses disciples. Heureux êtes-vous. Ce mot est d'abord prononcé de manière générale sur différentes situations, sur différentes attitudes. Mais à la fin, il est très clairement personnalisé. Heureux serez-vous. Et ce « vous » final unit toute la gerbe. Les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, ce sont bien les disciples, sous différentes facettes de ce qu'ils sont appelés à vivre, de ce qu'ils sont appelés à être. Et c'est bien eux que le Seigneur déclare heureux. Le premier mot de Jésus pour ses disciples n'est pas un mot d'exigence, mais un mot de bonheur, un mot de bénédiction. Et ce mot traverse les siècles pour nous atteindre, nous aussi, pour nous être offert à nous aussi, ici, maintenant, ce matin, si nous sommes dans les dispositions de cœur d'un disciple de Jésus. Heureux êtes-vous. Heureux, nous dit Jésus. Heureux. Qui ne rêve pas de bonheur? Mais en même temps, qu'est-ce que le bonheur? Et surtout, de quel genre de bonheur Jésus peut-il et veut-il bien parler? Il faut bien le reconnaître, certaines des formules de Jésus sont bien paradoxales et nous prennent un peu par surprise. Et pourtant, le mot est là, à la première place à chaque fois. On ne peut pas manquer cela. De quel bonheur Jésus parle-t-il donc? Rejetons d'abord une caricature, celle que peut évoquer éventuellement le mot de béatitude. On parle des béatitudes. Et en français, le mot béatitude, ça fait penser à béat. Le bonheur dont Jésus parle n'est pas un état de béatitude détaché des choses, dans un autre monde, dans une sorte de rêve comme cela. On est frappé de voir combien partout la réalité de notre monde, la réalité de notre vie est présente, et même sous ses aspects les plus heurtés, les pleurs, l'oppression, la faim, la soif de justice, le travail pour la paix. On reste dans le monde, le vrai monde, en parlant de bonheur. Jésus n'est pas Bouddha, qui valorise la distance. Le détachement. Une deuxième compréhension semble devoir être écartée, c'est celle qui comprend heureux dans le sens dans un sens subjectif et immédiat, comme quelque chose de l'ordre immédiat du ressenti. Heureux ceux qui pleurent ne dit pas forcément ce que ressentent les personnes au moment où elles sont dans les larmes, mais ça dit plutôt ce que Dieu a en réserve pour elles. Elles peuvent être déclarées heureuses à cause de ce que Dieu veut être pour elles. C'est ce qui apparaît encore plus fort dans le texte de Luc, où à chaque béatitude correspond une sorte d'anti-béatitude. Et Jésus dit « Malheur à vous riches, malheur à vous qui êtes repus, malheur à vous qui riez ». Il s'agit bien à l'évidence de ce qui est réservé à ces personnes et non pas de ce qu'elles ressentent. Si Jésus déclare heureux ses disciples, c'est donc à cause des ressources de Dieu pour chacun d'eux, dans les différentes circonstances qui sont parfois bien contrastées et que nous pouvons connaître en tant que disciples. C'est à cause de tout ce que Dieu a en réserve pour les siens, pour ses disciples. C'est aussi à cause de la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu qu'ils peuvent être déclarés heureux. Derrière toutes les promesses qui accompagnent le mot « heureux », il y a le Seigneur, il y a son action, il y a sa bienveillance. Il s'agira bien sûr de découvrir ces ressources de Dieu, il s'agira d'y attacher son espérance. Mais dès maintenant, nous pouvons être déclarés heureux parce que nous connaissons la source et qu'elle ne trompera pas. C'est comme si vous avez rencontré une belle personne, une personne de valeur. On peut dire de vous que vous êtes heureux de l'avoir rencontré, parce qu'on sait tout ce que cette personne peut vous apporter. Vous êtes alors déclaré heureux. Et vous pouvez l'être avec raison, même si vous n'avez pas encore pleinement expérimenté, pleinement découvert tout ce que cette personne peut vous apporter. Et entendre cette affirmation « heureux es-tu » peut devenir une invitation à en découvrir le sens profond, à en découvrir la réalité. Voilà dans quel sens Jésus nous déclare heureux. Il peut dire cela de ses disciples parce qu'il connaît son Père céleste. Il peut dire cela de ses disciples parce qu'il partage avec son Père céleste l'intimité de ses projets et parce qu'il sait la valeur que chacun revêt pour son Père. Parce qu'il sait aussi quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Père pour chacun. « Heureux êtes-vous, dit Jésus à ses disciples. Heureux êtes-vous, nous dit-il aussi ce matin. » Mais en quelle situation ce bonheur peut-il s'expérimenter ? Les premières affirmations de Jésus sont complètement paradoxales, complètement inattendues et peuvent même nous sembler totalement contradictoires. Jésus parle d'abord de situations qui se traduisent fondamentalement par l'expérience du manque, l'expérience du besoin, l'expérience de la non-affirmation de soi. Heureux les pauvres de cœur, nous dit Jésus. Luc dit « heureux les pauvres » simplement. Inutile de penser que Matthieu a spiritualisé une version initiale, car les pauvres dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui, du fait de leurs besoins, n'ont pas d'autre refuge que le Seigneur. C'est cela la vraie pauvreté, selon Dieu. « Je laisserai au milieu de toi, dit Dieu dans Sophonie, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge. » Dans le nom de l'Éternel, c'est ça, être pauvre. Les pauvres de cœur, ce sont ceux qui, de cette façon, se savent pauvres, se savent en besoin de Dieu, se savent dépendants de Lui. Ce sont ceux qui assument aussi cette réalité, qui la vivent profondément. Si quelqu'un vient vers Dieu de temps en temps, juste quand ça va mal, pour crier « J'ai besoin de toi !» et qu'on l'oublie tout de suite après, on n'est pas pauvre de cœur. On est juste quelqu'un qui profite de Dieu selon le besoin. Un vrai pauvre de cœur, c'est quelqu'un qui se sait dépendant, qui vit cela profondément, qui le ressent en tant de situations de sa vie, et qui l'exprime et dont c'est la position devant le Seigneur. Et Jésus commence par cela, parce que c'est la clé qui ouvre tout le reste. L'humilité qui ouvre à Dieu. Et quand on y réfléchit, cette clé d'entrée qui nous est donnée, heureux les pauvres de cœur, est à la fois une exigence et un cadeau magnifique. C'est une exigence parce qu'il nous faut apprendre et accepter cette dépendance. Nous qui cherchons tellement à être autonomes, toujours, pas facile parfois de se reconnaître comme pauvre. Mais c'est en même temps un cadeau. Un cadeau pour celui qui se sait pauvre, qui sait qu'il n'a rien à faire valoir devant Dieu, qui sait qu'il vient là avec ses mains vides simplement devant son Père. Et Jésus nous dit que Dieu n'attend pas que nous ayons quelque chose à lui présenter pour nous accepter. Dieu nous accueille lorsque nous venons devant lui les mains vides, parfois désespérément vides, avec pour seul recours notre attente de lui. Heureux les pauvres de cœur, nous dit Jésus. Dieu a des ressources pour eux. Dieu, le Père, aura des ressources pour eux. Mais heureux aussi, nous dit Jésus, ceux qui pleurent. Et c'est ici la souffrance et les larmes dont Jésus nous déclare qu'elles ouvrent elles aussi aux ressources de Dieu. Là encore, on est en creux dans des valeurs tellement ordinaires de ce que l'on dit ordinairement. Heureux ceux qui pleurent, même ceux qui pleurent, même dans leurs larmes, il y a un recours auprès de Dieu. Quelles sont-elles ces larmes ? Ça peut être des larmes de deuil, de séparation qui font mal, mais cela peut être aussi certainement des larmes de repentance, des larmes qui correspondent à ce que l'on ressent soi-même, mais parfois aussi des larmes versées sur les autres ou sur le monde à cause de tout ce qui s'y passe et qui fait mal, où il y a tant de malheurs, tant d'injustices, au vu de tant de péchés et de rejets de Dieu. Quelle que soit la nature de ces larmes, le Seigneur Jésus nous dit « Heureux ceux qui pleurent, ils auront un accueil, un recours auprès du Père. » Et nous savons que si nous venons à Dieu avec ce que nous portons, il y a pour nous aussi cet accueil, ce recours. Mais heureux également, nous dit Jésus, les doux. Jésus cite ici le psaume 37 qui parle du juste qui choisit une attitude particulière dans la vie. Le juste qui choisit de s'en remettre à Dieu plutôt que de s'irriter lui-même contre tout ce qui ne va pas dans la vie ou contre tous ceux qui lui en veulent ou des choses comme cela. Le juste, le doux, c'est celui qui choisit de s'en remettre à Dieu face à sa situation. Qui choisit de s'en remettre à Dieu plutôt que de réagir lui-même. Qui accepte de ne pas faire valoir son droit face aux méchants par toutes sortes de moyens violents. C'est ce choix qui fait les doux. Parce qu'il s'en remet à Dieu, le doux rend autre chose que le mal. Le doux répond au mal d'une autre façon qu'en attisant encore le feu par une autre, en mettant un peu plus d'huile sur ce feu. Parce qu'il s'en remet à Dieu, le doux peut adopter une autre attitude et devient aussi quelqu'un par qui Dieu peut se manifester lui-même. Le doux, c'est celui qui attend de Dieu son action dans les circonstances de vie qui sont les siennes, plutôt que de se précipiter lui-même, se bagarrer surtout dès que quelque chose bouge, dès que quelque chose va de travers. Heureux les doux, nous dit Jésus. Car ils hériteront la terre. Heureux enfin ceux qui ont faim et soif de la justice. Et ici encore, on est dans le manque, il est question d'une faim, d'une soif. Faim et soif de la justice. Cette justice, on peut la désirer dans le cadre de la relation avec Dieu. Cette certitude que l'on peut avoir d'être pleinement accepté par le Seigneur, et quelle faim, quelle soif parfois de pouvoir être, savoir que l'on est accepté par Dieu en toute justice. Cette justice, on peut aussi la désirer d'un point de vue moral, comme le désir d'une vie en conformité avec ce que Dieu attend. Parce que vivre d'une manière juste dans la Bible, c'est vivre en conformité avec ce que Dieu attend. Et avoir faim, soif de justice, c'est aspirer tellement fort à cette vie qui est en conformité avec ce que Dieu veut de nous. Et puis parfois, cette faim et cette soif de justice peut être désirée dans une perspective plus sociale, comme le souci du droit de chacun, en particulier lorsque ce droit est menacé et bafoué. Jésus parle de faim, de soif, pour dire un besoin qui nous saisit, pas juste un petit besoin qui nous égratigne de temps en temps quand on y parle, mais avoir faim, avoir soif de justice dans ses différents aspects, comme un désir profond qui nous fait aspirer, qui nous conduit à demander la justice, à nous battre peut-être, à rechercher vraiment cette chose. Et Jésus promet, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de cette façon-là, de justice, ils seront rassasiés. Rassasiés. Ce qui est étonnant, c'est que dans tous ces cas, d'une certaine façon, c'est le manque ou le besoin qui caractérise le disciple. C'est au cœur du manque, au cœur des besoins qui sont les nôtres, que sont promises les ressources en abondance. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que ces manques ne sont pas forcément des manques liés à la faiblesse. Ils sont parfois le fruit d'un choix. Être pauvre de cœur, c'est une attitude de vérité sur soi-même, c'est être prêt à voir vraiment sa profonde réalité, et parfois son besoin, l'assumer. C'est un choix de vérité. Pleurer est parfois un choix de solidarité, ou l'expression d'un désir de vivre vraiment selon Dieu. Être doux, c'est un choix, le refus de la violence et de l'affirmation de soi au profit de la confiance en Dieu. Avoir faim et soif de justice, c'est garder cet objectif de justice. C'est se garder attaché dans cette tension vers la justice. Et accepter cette disposition, même si ce n'est pas forcément confortable, que d'être en tension. Cultivons ces dispositions. Reconnaissons notre pauvreté là où elle existe. N'en faisons jamais un obstacle. Elle est au contraire une clé, nous dit Jésus. Acceptons aussi d'être en tension dans certains domaines de notre vie, d'avoir encore faim, d'avoir encore soif, de pleurer sur nous-mêmes, de pleurer sur ce qui nous entoure. Acceptons de ne pas nous faire valoir nous-mêmes constamment, mais d'attendre le Seigneur qu'il se manifeste et qu'il agisse lui-même parfois. Et la promesse de Jésus, c'est que Dieu pourvoira. La promesse de Jésus, c'est que le Père a des ressources abondantes et belles pour les siens. La promesse de Jésus, c'est qu'il y a auprès de Dieu un accueil, un accompagnement, un horizon aussi, une bénédiction qui permet de dire « Heureux êtes-vous quand vous êtes dans ces situations-là, dans cet état d'esprit-là. Heureux. » Mais Jésus ne se contente pas d'inviter ses disciples à découvrir les richesses de Dieu au cœur de leurs besoins. Car la deuxième partie de ces béatitudes les invite à mettre en œuvre des dispositions actives. Et Jésus parle ici de miséricorde, de pureté de cœur, d'œuvre de paix et de la recherche de ce qui est juste aux yeux de Dieu, même dans l'hostilité. Et Jésus affirme avec la même force et la même confiance tranquille que Dieu a des ressources de présence, de bénédiction pour ses disciples lorsqu'ils sont engagés dans l'action. Et Dieu a les mêmes ressources pour eux quand ils sont engagés dans l'action que lorsqu'ils éprouvent l'intensité de leurs besoins. Et ce deuxième regard, le regard de la deuxième partie des Béatitudes, est tellement important. Être disciple de Jésus, on peut l'être avec ses états d'âme, quels qu'ils soient. Mais être disciple de Jésus, ce n'est pas se centrer sur ses états d'âme, ce n'est pas se centrer sur soi-même, c'est aussi s'engager activement à l'égard du prochain et à l'égard du bien. Et c'est découvrir, nous dit Jésus, que notre Père céleste est là, au cœur de nos engagements, pour nous soutenir et pour nous bénir aussi. Et c'est pourquoi Jésus continue en disant « Heureux les miséricordieux ». La miséricorde, c'est l'attitude de celui qui cherche à apporter secours, à apporter soulagement à ceux qui sont dans la souffrance, ou qui sont dans la misère ou dans la détresse. La miséricorde, ce n'est pas tout à fait la même chose que la grâce. Un commentateur a fait cette réflexion que je trouve intéressante en disant « La grâce concerne la relation. Hein, c'est le pardon qui purifie, qui restaure la relation. » Et c'est tellement magnifique quand la grâce est donnée et qu'on peut dire « Voilà, une relation qui était brisée est maintenant restaurée avec Dieu, les uns avec les autres. » Ça, c'est la grâce. Mais la miséricorde prend en charge la souffrance qui est liée au mal. Que ce mal ait été commis ou que ce mal ait été subi. Et la miséricorde s'attache à cela, à cette souffrance. Et lorsque Jésus s'adresse à ses disciples et les invite à être miséricordieux, il les invite à cette démarche de compassion, d'attention à ceux qui éprouvent justement cette souffrance du mal commis ou du mal subi. Lorsque Jésus invite à être miséricordieux, il ne précise pas envers qui. Il ne dit pas non plus dans quelle situation il faut le faire. S'agit-il de ceux qui subissent le mal ou la méchanceté des hommes? S'agit-il des exclus dont Jésus a été proche? S'agit-il de ceux qui nous font du tort, envers lesquels nous sommes appelés à être miséricordieux? S'agit-il de ceux qui sont tombés et qu'il faut aider à se relever? Jésus ne précise pas. Mais plus loin, il nous parlera de notre Père céleste, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et cela donne l'éventail de cette miséricorde à laquelle nous sommes appelés, nous aussi. Le monde est invivable sans miséricorde. Le monde est invivable si tout le monde se protège soi-même, comme dans un bunker, pour ne surtout jamais voir les autres. Le monde est invivable si chacun est impitoyable envers l'autre en exerçant simplement ses exigences et que cela. Être disciple de Jésus, c'est accepter de s'ouvrir à la souffrance, à la détresse de quelqu'un. Et c'est apporter un peu de cela dans les univers impitoyables et égoïstes qui sont souvent les nôtres, que ce soit au travail, où chacun doit être pour soi, où chacun a ses objectifs, que ce soit dans nos villes, où chacun se mure dans sa maison, dans son appart, que ce soit dans nos rues anonymes, où personne ne connaît personne, que ce soit dans le monde fermé de nos smartphones, où on est là juste avec son réseau. Heureux les miséricordieux. Notre monde a besoin de ces attitudes d'attention aux autres. Et le renversement qu'opère Jésus par rapport à ce que nous vivons si souvent en nous repliant sur nous-mêmes est juste intéressant. Là où nous disons, mais où ça va me mener la miséricorde? À quoi ça va me conduire? Jésus dit simplement, heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Parce que notre Père est miséricordieux. Et heureux, poursuit Jésus, ceux qui ont le cœur pur. Jésus nous invite ici à préserver nos dispositions intérieures, à nous garder du mal et à faire du bien l'orientation décisive et profonde de nos actes. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dit le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23. Un cœur pur, c'est un cœur unifié dans de bonnes dispositions. Unifié dans de bonnes dispositions envers Dieu, unifié dans de bonnes dispositions envers les autres. L'apôtre Pierre nous donne une belle description de ce que peut être un cœur pur dans nos relations. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Rejetant toute méchanceté et toute ruse, rejetant la dissimulation, l'envie et toute médisance, cette habitude de dire du mal des autres et d'aimer ça, rejetant tout cela, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Un cœur pur, c'est cela. Être unifié dans de bonnes dispositions et cultiver ces dispositions devant Dieu, dans la relation avec Dieu, en face de sa parole pour qu'elle nous conduise. Cela implique des rejets, le rejet de certaines attitudes qui seront mauvaises, rejeter la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, rejeter tout cela. Ça peut impliquer parfois des combats contre toute espèce de mal, contre tout ce qui nous salit. Alors nous le savons, pour cette question de pureté, elle n'est pas innée en nous. Le mal est là, nous le commettons, il nous salit, nous le ressentons si souvent. Dieu nous fait la grâce lorsque nous venons devant Dieu, devant lui, et que nous confessons nos péchés. Il nous fait la grâce de nous purifier de toute iniquité. Et c'est un merveilleux cadeau qu'il nous fait, que nous vivons vraiment lorsque nous venons devant lui avec tout ce qui nous salit intérieurement. Mais Dieu ne nous purifie pas simplement comme ça en disant « Tu viens, je te nettoie tout ça d'un coup de balai. » Le Seigneur promet de nous purifier si nous reconnaissons notre mal. Si nous reconnaissons le mal comme mal devant lui et que nous avons à cœur de nous en détourner pour nous orienter résolument vers ce qui est bien, vers ce que Dieu attend de nous et ce qui nous unifiera d'une belle manière. Jésus dit à ses disciples, heureux les cœurs purs. Les cœurs, oui, purifiés par Dieu, bien sûr, parce qu'on a besoin de cette grâce qui nous purifie, mais les cœurs aussi unifiés par le bien, unifiés de cette belle façon. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Car notre Père Céleste est ce Dieu totalement unifié par le bien. Il est totalement unifié par le bien dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il veut pour nous. Dieu est totalement unifié par le bien. Et nous le savons, notre relation avec lui est restaurée grâce au pardon qu'il nous accorde en Jésus. Mais en même temps, nous verrons et nous pouvons voir le Seigneur en quelque sorte, lorsque nous sommes accueillis par lui dans sa grâce. Mais en même temps, nous savons que notre relation avec Dieu pourra se déployer en liberté, en joie, en sérénité, au fur et à mesure où nous aussi, par son action transformatrice, nous sommes orientés de plus en plus, unifiés vers le bien, unifiés vers ce que Dieu aime, si nous laissons Dieu agir en nous. Oui, tout est plus beau. Toutes les relations sont plus belles lorsqu'elles sont unifiées par le bien. Et c'est ce que Dieu attend de nous dans notre relation avec lui, c'est ce que lui nous offre. Mais c'est aussi ce que nous pouvons et que nous sommes appelés à vivre dans nos relations humaines, les uns avec les autres. Heureux les cœurs purs, ceux qui sont sans détour, sans ces médisances, ces envies, ces choses-là. Heureux sont-ils, leurs relations sont tellement meilleures. Débarrasser des ruses, des jalousies, des médisances qui parasitent tout. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et heureux, nous dit encore Jésus, et là encore on est dans l'action, heureux les artisans de paix. Là encore Jésus invite ses disciples et nous invite à l'action, à l'engagement dans toutes nos sphères de vie et de relations. Artisans de paix. L'objectif est ici la restauration, l'établissement de relations harmonieuses, de relations bienfaisantes, de relations restauratrices. Car la paix, ce n'est pas simplement l'absence de troubles. Vous voyez, la paix, absence de trouble, on peut la connaître en s'ignorant mutuellement. Hein. On n'a pas de problème avec les gens qu'on ignore. Ce n'est pas ça la paix dans la perspective de la Bible. Dans la perspective du Bible, la paix, c'est une harmonie dans la relation. Et Jésus nous invite à travailler à la paix. Il dit heureux les artisans de paix, ou heureux les faiseurs de paix. C'est ça ce qu'il dit. Heureux les faiseurs de paix. Ceux qui travaillent, ceux qui la bâtissent, ceux qui se mobilisent pour elle. Alors on voit souvent les artisans de paix comme les gens qui s'emploient à rétablir la paix lorsqu'il y a eu des conflits ou lorsqu'il y a des conflits. Là où règne l'hostilité, là où règne la guerre, les conflits, les tensions. Et c'est vrai que c'est un travail immense, un investissement tellement difficile, une tâche à remettre toujours et encore sur le métier quand on est artisan de paix dans ces contextes-là. Où souvent, ce qui a été construit au prix de 1000 efforts peut être détruit juste par un acte de quelqu'un, un acte inconsidéré. C'est tellement difficile, tellement exigeant d'être artisan de paix. Et il nous faut prier vraiment pour tous ceux qui, dans ce monde aujourd'hui, tentent d'être artisans de paix, d'apporter un peu d'harmonie dans les relations où il y a tellement de tensions. Mais voyez-vous, ce n'est pas d'abord au cœur des conflits qu'on est artisan de paix. Nous sommes appelés à être artisans de paix, à être des faiseurs de paix dans la construction régulière de relations. Dans la construction régulière de nos relations, avant tout conflit et pour éviter qu'il n'en surgisse, c'est là qu'il faut commencer à être artisan de paix. Être artisan de paix, ce n'est pas être juste le grand pacificateur des grandes crises mondiales. Être artisan de paix, c'est dans chaque relation que nous vivons, que nous construisons au jour le jour, chercher à travailler au bien, chercher à travailler à la paix, chercher à travailler à l'harmonie. Nous devons travailler à l'harmonie en essayant d'éviter que ne surgissent à cause de nous des tensions. Nous devons travailler à l'harmonie en cherchant à ce que les relations que nous bâtissons puissent justement se dérouler dans un bon contexte, un bon climat. Nous sommes appelés à être artisans de paix, des faiseurs de paix dans notre façon de collaborer avec nos collègues au travail jour après jour. Être des artisans de paix, des faiseurs de paix. Travaille harmonieusement en équipe, qui facilite les choses, qui ne viennent pas toujours créer des problèmes à cause de nos ambitions, de nos petites histoires, de notre petite susceptibilité, etc. Être artisan de paix, c'est là qu'on le vit. Nous devons être artisans de paix dans notre manière de nous relier avec nos voisins, dans notre façon de discuter en groupe, de traiter des questions épineuses, dans nos relations au sein de notre famille, avec nos proches, là où on aurait tellement envie que tout se passe bien tout seul. On rêve tous de ça, que tout se passe bien tout seul chez nous, sans qu'on ait besoin de rien faire. Jésus dit, travaille à la paix, sois un faiseur de paix. Dans l'Église aussi, on aimerait que ce soit un havre de paix, comme ça, tout seul, par la vertu du Saint-Esprit, c'est vrai, un petit peu. Mais Jésus nous dit, soyez des faiseurs de paix dans vos relations. Et Jésus nous invite à être engagés et actifs. Et si nous pouvons l'être, c'est parce que les premiers, nous sommes au bénéfice du grand faiseur de paix qu'est notre Dieu, qui a tout fait, lui, tout enduré, tout donné, tout pris sur lui, pour que nous puissions connaître la paix avec lui. Dieu s'est plu à réconcilier toutes choses avec lui-même en faisant la paix par le sang de sa croix, nous est-il dit. Et c'est pourquoi Jésus nous dit qu'être nous aussi des faiseurs de paix dans nos relations quotidiennes, c'est être appelé fils de Dieu. Heureux les faiseurs de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et puis heureux, nous dit Jésus, ceux qui s'attachent à ces objectifs de justice et de vie selon Dieu, même s'ils ne récoltent pas d'applaudissements, et même si, au contraire, cela leur vaut l'hostilité, voire la persécution. Et Jésus ne cache pas que les valeurs qu'il prône pour ses disciples viendront parfois heurter les valeurs du monde qui nous entoure. Jésus ne cache pas que les comportements qu'il demande de nous pourront gêner d'autres, hein, d'autres manières d'être, d'autres manières de faire qui ont cours autour de nous. Être disciple de Jésus, c'est manifester une différence. Et cette différence n'ira pas toujours dans le sens naturel du cœur humain. Mais Jésus nous invite à assumer positivement cette différence, en nous attachant à la justice, même si nous souffrons pour elle. Heureux serez-vous si vous êtes persécutés à cause de la justice, hein, parce que nous sommes attachés à la justice, à cette manière de vivre qui est selon Dieu. Et sa promesse, c'est que quelles que soient les réactions de ceux qui nous entourent, le royaume des cieux est à nous. Le royaume des cieux est à nous. Heureux à vous, même si vous êtes persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à vous, même si sur la terre, vous ne faites pas l'unanimité. Dieu se manifestera alors pleinement comme celui qui est pour nous, lorsqu'il fera descendre des cieux la réalité de sa nouvelle création. Et dès aujourd'hui, notre Père nous fait héritier de ce royaume, car nous sommes à lui, car il est à nous. Et c'est pourquoi on peut tenir, et c'est pourquoi il faut tenir, même si autour de nous, nous ne rencontrons pas que des applaudissements, même si parfois, il peut y avoir de l'hostilité. Nous voilà donc devant un portrait assez complet de ce que nous sommes appelés à être si nous voulons vivre en disciples du Christ. Oui, parfois seuls, à genoux devant Dieu, nous reconnaissons notre pauvreté, nous reconnaissons nos besoins. Mais nous nous attendons à Dieu positivement. Et parce que nous nous attendons à Dieu positivement, ça nous libère aussi du besoin de nous imposer nous-mêmes. Nous sommes pourtant affamés, assoiffés de justice. Et nous désirons aussi grandir dans la grâce, dans les bonnes œuvres que Dieu veut pour nous, dans cette vie juste que Dieu désire pour nous. C'est ce qui doit nous pousser à l'action, à la miséricorde, des relations unifiées par le bien, délestées des arrière-pensées mauvaises, nous conduisant à faire œuvre de paix jour après jour, envers et contre tout. Une belle différence, somme toute, à marquer. Et surtout, une belle connivence à développer avec notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, qui dans toutes ces choses veut être Dieu avec nous, Dieu près de nous et sans faire défaut, Dieu pour nous. Et Jésus nous dit, heureux êtes-vous, heureux serez-vous, car le royaume des cieux est à vous. Amen.